Jean 14, verset 27, il est dit, je vous laisse, et c'est Jésus qui parle, hein, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On connaît bien ce verset. Un peu plus loin, dans Jean 16, 33, Jean 16, verset 33, toujours Jésus. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations. Il parle de paix, mais en même temps d'une réalité. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et puis dans Acte 9, verset 31, Acte 9, verset 31, Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous aimez bien être en paix ? Ça fait bien, hein ? La paix, tranquille, hein ? Mais là, on va parler plutôt de la paix de Dieu, hein ? Vous savez, quand on ouvre la télé, enfin si vous l'ouvrez encore, qu'est-ce qu'on parle ? On parle de quoi à la télé ? De guerre, terrorisme, meurtre, de souffrance. Moi, de temps en temps, ils ne nous parlent pas d'autre chose, hein, mais c'est un peu la réalité de notre monde aujourd'hui. Et alors, si vous discutez avec les autres, hein, parce qu'il y a une analyse des hommes aussi par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, qu'est-ce que disent les gens ? Pourquoi il y a la guerre ?
C'est le cœur de l'homme.
Ouais, il y a un leitmotiv, hein. C'est la faute de Dieu, il ne fait rien. Dieu fait rien. Et il y a toujours la guerre à cause de Dieu. Hein. Ou alors, ils vont dire, mais qu'est-ce qui fait Dieu pourquoi on s'entretue, etc. Hein. Ou alors, où il est Dieu, hein. C'est souvent ce qu'on entend. Et on met toute la culpabilité sur Dieu. Et le problème, c'est souvent quand j'entends ça, je dis, mais oh, lui, il ne veut pas ça. Mais je dis, regardez d'abord dans votre cœur à vous. Hein. Est-ce qu'il est en paix, votre cœur ? Est-ce qu'il y a la paix de Dieu dans votre cœur, hein ? Parce que pourquoi vouloir la paix avec les autres si moi-même je ne suis pas en paix déjà, ou avec mon voisin, ou avec mon collègue, etc. Et bien souvent quand on analyse notre cœur, eh ben on se rend compte que ce n'est pas gagné d'avoir la paix, hein. Même des fois en tant que chrétien, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas gagné et c'est presque impossible que le monde soit en paix, tout simplement parce que moi-même je ne suis pas en paix déjà. Et donc vivre en paix est impossible, mais pas impossible sans Dieu. C'est toute la différence. Si le monde entier se convertissait aujourd'hui, voilà, ce serait bien, hein. Il y aurait la paix dans le monde, tout simplement, parce qu'on ne convoiterait plus, parce qu'on aimerait, on partagerait, etc., etc. Il y aurait la paix dans le monde, mais ça, c'est un vieux rêve. Hein. Mais avant de vouloir la paix dans ce monde, il faut d'abord commencer par soi-même et apprendre à se laisser transformer. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, et apprendre à être en paix avec Dieu et aussi avec le prochain. Et on va voir trois choses. Hein. D'abord, la paix de Dieu et son désir pour l'homme, parce que Dieu a un désir pour l'homme dans ce domaine-là. Puis que la paix est hélas refusée par l'homme, ça c'est un autre constat. Et un troisième, c'est que en tant que chrétien, nous avons la paix normalement et comment on va agir avec. Alors dès le début, Dieu désire la paix pour l'homme. C'est tout ce qu'il veut pour l'homme. Et l'homme dit, non, Dieu veut la guerre, etc. Non, Dieu veut la paix. Et quand on étudie un peu la Bible, hein, je suis allé à droite, à gauche dans la Bible, c'est un des titres de Dieu. Hein, shalom, Yahvé Shalom, ça veut dire Dieu de paix en hébreu. Donc c'est un des attributs de Dieu. Quand on rencontrera Dieu, il est en paix, oui. Il n'est pas en guerre, ou je ne sais pas, il est en paix, c'est comme ça qu'il est. Dans 1 Corinthiens 14, on voit que c'est un Dieu qui n'est pas un Dieu du désordre, mais un Dieu d'ordre. Il aime l'ordre. Il devait être allemand, à mon avis. Les Allemands sont carrés comme ça, non, je rigole. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et parce qu'il y a l'ordre, qu'est-ce qui découle ? La paix. Vous avez déjà réussi à être en paix quand il y a un désordre parmi vous, autour de vous ? C'est impossible. Alors, il y en a qui arrive, hein. Je ne sais pas comment ils font, mais moi j'y arrive pas en tout cas. Hein. Et donc Dieu est comme cela, et parce qu'il est un Dieu d'ordre, parce qu'il y a quelque chose d'ordonné chez lui, et forcément il y a de la paix qui va en découler. Dans 2 Corinthiens 13, 11, je ne sais pas si quelqu'un l'a, si quelqu'un veut nous le lire. 2 Corinthiens 13, 11.
Ah oui, c'est
vrai. Ah, toi.
On reste frère, c'est ça,
hein? Oui.
Pour le reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous.
Mmh. Il y a un lien entre l'amour et la paix, là. Le même Dieu qui est plein d'amour. Non, c'est bon, on s'arrête là. Il y a un lien entre l'amour et la paix. Hein. Il n'y a pas de paix sans amour et réciproquement. Hein. Je ne peux pas aimer quelqu'un et me dire je vais être en paix avec lui, ce n'est pas possible. Et ce même Dieu, il est dit en Hébreux 13, a ressuscité Jésus-Christ à cause de ce Dieu de paix. Il y a donc une espèce de puissance dans la paix. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce monde, les hommes de paix sont puissants quelque part, hein, parce qu'ils apportent la paix. Alors, je ne veux pas parler des grands hommes, mais c'est vrai que quand on vient avec la paix, plutôt que la guerre, d'abord les gens sont choqués, mais en même temps, ben, ça arrange bien souvent des choses. Voilà. Mais il faut oser, et des fois ça coûte très cher. Mais Dieu est un Dieu de paix, et dans cette paix, il y a une puissance. Et un jour, Dieu m'a imposé la paix dans ce monde, par la guerre peut-être au début, mais il imposera cette paix dans le monde. Et on sera enfin bien. Hein? La Bible nous dit aussi que Dieu offre la paix au travers de Jésus-Christ. Il a voulu se réconcilier avec l'homme. Hein? L'homme est pécheur, Dieu a voulu se réconcilier. Il aurait pu dire, t'es pécheur, tu te débrouilles, tu fais ta vie. Non, Dieu a tout fait pour se réconcilier. Il voulait être en paix avec l'homme. Et quelqu'un a normalement Colossiens 1:20.
Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Merci. Quand on s'est réconcilié, ou plutôt quand Dieu s'est réconcilié avec nous, qu'est-ce qu'il y a? On a une relation de paix. Dieu n'est plus en colère après moi. Bon, il arrive de temps en temps qu'il nous en veut un peu parce qu'on fait des bêtises, mais il n'est plus en colère en général contre nous. Il est en paix avec nous. Et pour ça, il y a quelqu'un qui a dû aller sur la croix, qui a dû souffrir, qui a donné sa vie, qui a laissé son sang couler pour que nous puissions être en paix. Et par Jésus-Christ, nous avons été rapprochés de Dieu. Lui n'est plus en colère contre nous. Quand même formidable quand on y réfléchit. Dieu n'est plus en colère contre moi. Je ne risque plus rien quelque part si je l'ai accepté dans ma vie. Ce Dieu de paix veut aussi nous sanctifier pour être prêt à le rencontrer. 1 Thessaloniciens 5:23. Quelqu'un là normalement? 1 Thessaloniciens 5:23.
Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'âme, l'esprit de l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Relation entre ce Dieu de paix qui veut nous sanctifier. Dieu veut finalement que, vous savez, si on se laissait tous sanctifier complètement, il y aura une paix entre nous, hein, déjà, entre nous et dans notre cœur. Mais Dieu est le Dieu de paix qui sanctifie aussi. Ça veut dire qu'il sait qu'on a besoin d'être transformé pour justement acquérir cette paix dans notre vie. Et c'est du travail. Le croyant est justifié aussi et reçoit la paix au moment où on s'est converti. Dieu nous a donné aussi sa paix. Hein. Et Jésus veut nous amener dans ce chemin de paix. Il nous l'a montré la voie. Hein. Il y a plusieurs versets qui le disent. Et tout croyant justifié par la foi a la paix avec Dieu. Il se sait pardonné une fois pour toutes. Il se sait sauvé. Il sait qu'il verra Jésus un jour dans face à face. Hein. Quelqu'un en Romains 5:1. Romains 5:1.
Ainsi nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi. Et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ.
Justifié par la foi pour être en paix avec le Seigneur. Et ce n'est pas grâce à moi. Hein. Je ne suis pas en paix grâce à moi ou à ma valeur ou mes capacités. C'est grâce à Dieu et grâce à Jésus-Christ que nous pouvons être en paix avec lui. Le pardon et le salut offrent la paix. Il disait à une femme qui était malade, il disait « Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, tu es sauvé maintenant, tu peux partir en paix. Voilà, parce que je suis là, mais aussi parce que je t'offre ma paix. » Et cette paix, je pense qu'on peut l'avoir en toutes circonstances. Et là, j'ai une petite lettre d'un sergent pendant la guerre qui disait... Alors, converti quelque temps avant de partir au front, un soldat écrivait à un ami cette lettre très touchante. « Mon cher ami, en ce 13 janvier 1915, donc la première guerre, c'est pas la meilleure, hein, au milieu du froid et de la tourmente, je suis heureux d'avoir un petit instant pour vous envoyer ces quelques mots d'affection et pour vous dire surtout combien je suis heureux en Jésus. » Il est en pleine guerre. « Quel compagnon !» Quelle paix sa présence me procure au milieu de ces sanglants combats et des clameurs. J'éprouve tous les jours ses tendres soins. Que de fois je me suis senti à l'ombre de sa main et de son bras puissant. Paisiblement, je parcours mon chemin, jouissant d'une paix inexprimable. Il est mon salut, il est ma force. Allez, au revoir et bon courage à tous. Même en temps de guerre, on peut être en paix ne veut pas dire qu'on ne réalise pas ce qui arrive, on est bien d'accord. Mais il avait trouvé en Jésus-Christ une certaine paix et une confiance. Donc si lui arrive à être en paix, ça veut dire quoi? Nos petites journées, ils sont... Bobo, on a nos petites difficultés, mais je pense pas qu'on est en pleine guerre là non plus. Hein. On n'est pas dans les tranchées. Donc, si lui arrive à trouver la paix en Jésus-Christ, je pense que nous-mêmes on peut aussi la trouver. Et de toute façon, Dieu veut nous la donner, mais à condition qu'on l'accepte. Et quand on regarde encore dans la Bible en entier, on voit que la Trinité travaille justement pour la paix du croyant. Par exemple, Dieu, hein, il est dit dans Philippiens et Thessaloniciens, sa paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Concernant Jésus, il dit, il nous donne sa paix, non pas comme le monde la donne. C'est pas la paix que le monde veut faire, mais c'est la paix du salut, c'est la paix de l'éternité. Puis le Saint-Esprit travaille dans ce domaine aussi, puisqu'il produit en nous cette paix liée à l'amour, à la patience, etc. C'est le fruit de l'Esprit, dans Galates. Hein. Donc si j'ai le Saint-Esprit, j'ai aussi normalement la paix. Et si je laisse produire du fruit en moi, j'ai cette paix. C'est pas une paix qui est artificielle. Le monde essaie de chercher une paix. Mais ça, ce n'est pas une paix artificielle, ce n'est pas un effort humain non plus. Mais si je suis en Jésus-Christ, forcément, j'aurai cette paix à un moment. Alors si on est en paix aujourd'hui, il ne faut pas se dire c'est grâce à nous, mais quelqu'un a payé le prix fort. Et c'est ça qu'il faut se souvenir. Si je peux être tranquille aujourd'hui, en paix dans mon cœur, c'est parce que quelqu'un a payé. Sinon, ça ne serait pas possible. Et il veut notre paix, justement. Deuxième chose, c'est qu'on voit, hélas, dans la Bible et dans ce monde, c'est que l'homme ne veut pas la paix. Enfin, déjà, dès le début, le diable, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené la guerre entre les anges, puisqu'il a chuté et il a amené une partie des anges, qui s'appelle les démons aujourd'hui, et il y a combat entre les deux, tous les jours, tous les jours. Nous, on ne voit pas, mais quand on voit les États se faire la guerre, quand on voit un tas de choses qui se passent dans le monde, on voit bien qu'il y a une lutte spirituelle qui est là. Et donc, forcément, il n'y avait plus la paix. J'imagine avant qu'il ait chuté, la paix qu'il devait y avoir au ciel, dans ce monde, enfin je ne sais pas si le monde existait à ce moment-là. Ah, ça c'est des vacances, non? Des vraies vacances, hein? Mais là, non, maintenant il y a guerre dans le ciel, hélas. Puis le diable a refusé la paix de Dieu et depuis fait la guerre non seulement à Dieu mais aussi aux hommes, comme s'il pouvait gagner, mais il le fait quand même. Et puis évidemment, il s'est dit on ne va pas y aller tout seul, hein, on est allé voir Adam et Ève et on leur a proposé la paix, mais selon le diable aussi quelque part. Et ils ont péché, et la paix que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden, là aussi, je rêve des fois, hein, ça devait être vraiment formidable, et bien cette paix a disparu, et le péché est entré dans le monde. Et depuis ce temps-là, le monde va dans la crainte, dans l'insécurité, dans l'insatisfaction, dans le terrorisme, etc. etc. Enfin, on met un peu l'accent sur le terrorisme, mais il y a tellement d'autres choses qui sont pires, hein, l'argent, etc., le non-partage, et il y a aussi des choses terribles. Et le péché enlève la paix. De toute façon, même quand nous péchons, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas bien. Si on vient de se mettre en colère, on n'est pas bien après. On sent que cette paix, elle est partie. Et le monde entier ne connaît plus justement le chemin de la paix, ou il n'en veut pas de ce chemin de paix, ou il se détourne de ce chemin de paix, nous dit la Bible. Elle parle de l'homme comme, la Bible parle de l'homme comme des rebelles. Avant, on était comme ça, des rebelles. Moi, rebelle? Moi, non. T'es pas rebelle avant, non? Si, si, la Bible le dit. Mais contre Dieu. Parle de fils de la rébellion aussi. Hein. Et depuis, ben, les hommes souffrent. Mais ils veulent quand même la paix. Hein. Le monde veut la paix. Ils cherchent la paix quelque part. Mais ils veulent la paix sans reconnaître leurs péchés. Ou les péchés dans ce monde. Parce que le monde cherche quand même quelque part la paix. Mais le problème, c'est que ben, j'ai besoin de pétrole, j'ai besoin d'argent. Et ça, c'est mon péché, c'est ma convoitise. Et forcément, ils cherchent la paix, mais ils n'y arriveront jamais. Ils recherchent la paix. Et Esaïe dit, point de paix pour les méchants. Même si on voulait la chercher, si on a dans le cœur quelque chose de méchant ou de péché, forcément on n'arrivera jamais. C'est logique quelque part, on n'arrivera jamais à la paix. Mais le monde se donne un peu l'illusion aussi de la paix. Hein. Mais Ézéchiel dit « paix, paix quand il n'y a point de paix ». Le peuple des fois croit être en paix alors qu'il est loin d'être dans la paix. On se donne l'illusion de quelque chose. Des fois nous en tant que chrétiens aussi. Hein. Mais le monde croit être en paix peut-être en Europe pour l'instant, mais au fond il y a une guerre terrible. Et quand on regarde la paix dans l'avenir, la paix sera enlevée de la terre une fois pour toutes, Apocalypse 6, 4. Quelqu'un a un moment, Apocalypse 6, 4.
Et il sortit un autre cheval, rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée.
Quand l'Apocalypse va commencer, avant que Jésus revienne, il y aura plusieurs... choses qui vont se passer, dont c'est ce cavalier roux hein, qui va partir et qui va enlever la paix sur la terre. Alors imaginez, là on se dit qu'on est à peu près en paix, mais quand il va enlever la paix sur la terre, toutes les nations vont s'entretuer. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Nous, on ne sera plus là, normalement. Mais un jour, il y aura une dernière guerre, et ça sera certainement la plus meurtrière de toutes, hein. Mais c'est quand Jésus reviendra à Armageddon, il posera ses pieds à Jérusalem, et là, il instaurera son règne, et ça rejoint le psaume de tout à l'heure. Tous les rois vont fléchir le genou, mais tous les hommes vont fléchir le genou devant Jésus-Christ. Ça va être formidable, non? Parce que là, on l'a vu à la croix humilié. On va dire, ouais, on a gagné sur Dieu, on pourrait dire. Mais quand il reviendra, il n'y a personne qui osera lever la tête et qui pourra lever la tête parce qu'il imposera son règne de paix à ce moment-là. Ça sera le plus beau jour de ma vie. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais de voir que pendant des années, on a lutté contre lui, qu'on s'est moqué de lui, etc. Et que quand ils l'auront en face, bah, tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus rien dire. Et en plus, tu vas devoir lui obéir. Ça, c'est encore pire, à mon avis. C'est pour ça qu'il vaut mieux obéir à Dieu aujourd'hui ou à Jésus-Christ, de le suivre, que d'être en face de lui et qu'on t'impose d'obéir. C'est pire. Et puis Dieu écrasera finalement, à la fin des temps, Satan, et il assurera la paix pour l'éternité. Donc si Satan, si le péché a enlevé la paix jusqu'à présent, même si ça nous embête, hein, le Seigneur, en attendant, peut restaurer notre paix à nous, en particulier. Un jour, il restaurera la paix dans ce monde, mais en attendant, on pourrait se plaindre de ce monde, on pourrait dire « Ah là là, tout va mal, etc. » Oui, tout va mal, mais moi, je peux aller bien. C'est mon choix, tout simplement. Et c'est le choix de suivre Jésus-Christ, évidemment. Mais nous, troisième point, on est devenus chrétiens. Et donc, on vit en paix. Vous êtes en paix ? Moi, cousi cousa, hein ? Ça vient, ça part, hein ? Mais non, jusqu'au bout, hein ? Plus que vous, hein ? Mais on a la paix en tant que chrétien. Et Dieu veut que l'on vive en paix entre chrétiens d'abord. C'est la volonté de Dieu pour les chrétiens. Vivez en paix, il dit dans 2 Corinthiens 13, 11. Ce n'est pas « je vous propose de vivre en paix ». C'est un impératif, c'est presque un commandement quelque part qui doit régir notre quotidien. Je veux vivre en paix avec mon frère, ma sœur, même si des fois ce n'est pas toujours simple. Ben, je vais apprendre à vivre en paix, me réconcilier s'il faut, etc. Le Seigneur veut qu'on soit en paix les uns avec les autres, dit Marc 9. Et ça, c'est formidable quand on peut être en paix les uns avec les autres. Toujours mieux que de se taper dessus. Hein. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13, quelqu'un, normalement. Oui, c'est moi. Oui.
Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous espèrent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous.
Voilà, autant il met un peu l'accent sur ceux qui travaillent, mais à la fin il dit soyez en paix les uns avec les autres. Et c'est ce que le Seigneur voudrait. Quand il regarde l'Église et qu'il voit l'Église qui est en paix, je pense qu'il est heureux. Hein, il est heureux parce que finalement on obéit à ce qu'il nous demande de faire et en même temps forcément il n'y aura pas de problème hein, si on est en paix les uns avec les autres. Comprenons aussi les bienfaits de la paix de Dieu pour le croyant. Hein. D'abord la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, donc ça devrait chasser l'inquiétude de notre quotidien, même si des fois elle revient rapidement, hein, parce qu'on est des êtres humains, mais le Seigneur voudrait justement garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire nos pensées, hein, c'est ça qui nous fait stresser, qui nous fait douter des fois, ou qui nous inquiète tout simplement. Mais quand nos pensées sont vraiment imbibées de Jésus-Christ et de ses promesses, comme on a vu tout à l'heure, normalement, on ne devrait plus s'inquiéter. Je dis normalement parce que je suis un être humain comme vous. Hein, mais avec le temps, on apprend quand même à chasser ses inquiétudes. De toute façon, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ça n'a jamais rien changé. C'est ça le problème. Alors, si Dieu nous offre sa paix au quotidien, pourquoi on ne la saisit pas ? Pas plus, je dirais. Pourquoi on ne la vit pas davantage, puisqu'elle est là, elle est présente ? À moi de la saisir, à moi de la vivre. Et même Dieu nous permet de nous endormir en paix. Le psaume 4, verset 9, c'est bien ce verset.
Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité
pour ma demeure. Tous les soirs, on se couche. Il y a un moment où on ne maîtrise plus rien du tout, parce qu'on dort, à part nos rêves. Mais je me couche et je m'endors en paix. Je confie tout à Dieu. C'est formidable de pouvoir s'endormir comme ça, non ? Plutôt qu'en stressant ou, je ne sais pas, avec des idées plein la tête. Mais Dieu s'occupe de nous, même la nuit, il nous offre la sécurité et cette paix. La Bible nous dit que la paix aussi a des objectifs. Elle permet, par exemple, de conserver l'unité hein, entre nous. Éphésiens 4, verset 3. Oui, Éphésiens 4, verset 3.
Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Donc il y a efforcez-vous, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours simple, la paix. Il y a un effort à faire. Mais le Seigneur nous demande de faire l'effort justement pour conserver ce lien et cette unité que donne la paix. Des fois, on peut ne pas avoir les mêmes pensées, on est d'accord, mais on peut en discuter dans la paix, dans le calme. On peut ne pas agir comme l'autre, ok, mais on va s'efforcer de rester en paix parce que le Seigneur nous le demande. Et le bonheur vient justement de la recherche de la paix. Si un jour vous dites pourquoi je suis pas heureux, ben, posez-vous aussi la question, est-ce que vous êtes en paix avec vous-même ou avec les autres? C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas heureux des fois. Parce qu'on n'a pas cette paix avec soi ou avec le prochain. Pas de joie sans paix. C'est pas possible d'être joyeux si on n'est pas plein de paix dans son cœur. Ça marche pas. C'est bien ça. Heureux ceux qui procurent la paix, nous dit Matthieu 5. Hein. Heureux ceux qui procurent la paix, Dieu les bénit et leur offre justement la joie. Et je pense que même face à un conflit, face à des ennemis, si on arrive à apporter la paix, au fond on a la joie d'avoir fait cela vis-à-vis de ses ennemis. Donc, si vous voulez être joyeux, faut être en paix avec vous-même et avec les autres, autant que cela se peut, évidemment. Comment vivre en paix entre chrétiens? D'abord, c'est un effort. Romains 14, 19.
Oui. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle.
Faut rechercher la paix. C'est pas quelque chose qui nous tombe sur le coin de la figure comme ça ou du ciel. Il y a un effort à faire, il y a un travail à faire là. De rechercher d'abord tout ce qui peut permettre la paix. Ça veut dire si moi j'ai des griefs vis-à-vis de quelqu'un, ben je sais que je peux arranger ça. Tout ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. Parce que dans la paix, on va apprendre aussi à grandir avec le Seigneur. Ça, on l'oublie bien souvent. Ce n'est pas juste égoïstement que j'ai envie d'être en paix, mais je grandis aussi dans l'édification. La paix se gagne par ton effort. Grâce à ton effort que nous allons être en paix. C'est ça? Ouais, non. On commence par moi. Moi, je dois d'abord être en paix. Et après, je peux demander à l'autre éventuellement d'être en paix. Mais bon, ça commence par moi. Hein. Et si chacun d'entre nous, on est en paix, eh ben alors qu'est-ce qui va se passer? On sera tous en paix. On va s'ennuyer à un moment peut-être même. On est tous en paix tout le temps, non? Parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des conflits. Mais tout commence par moi, pas seulement par moi intérieur, mais aussi par mon action. Et même si l'autre, là-bas, il m'énerve, hein, ben je vais essayer de chercher la paix. Malgré tout. Et peut-être ça va le toucher et ça va changer peut-être son cœur. Mais si j'attends que l'autre commence, ah ben là, on va attendre longtemps. Il va peut-être changer, mais moi je vais aller un peu plus vite qu'attendre 10 ans. Vivre selon l'esprit et non selon la chair, nous dit Romains 8, verset 6. Quelqu'un là? Romains 8.
Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'esprit mène à la vie et à la paix.
Je vais relire dans ma version, je préfère. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. À vouloir obéir au Saint-Esprit, eh ben, il va produire en lui forcément le fruit de l'esprit et la paix. L'amour de la chair, il dit, c'est la mort. La chair, c'est pas simplement le péché, mais c'est aussi son égoïsme, son ego, moi. Et quand je pense qu'à moi, forcément, je ne peux pas penser aux autres, et forcément, je ne vais pas avoir de la paix avec moi et avec les autres. Mais l'amour de l'esprit, lui, c'est la vie et la paix. Donc si je veux être en paix avec moi et avec les autres, il faut que je laisse le Saint-Esprit me travailler. Le travail de sanctification dont on parlait tout à l'heure. La paix fait partie du fruit de l'esprit. Je ne vais pas seulement pouvoir apprendre à aimer ou être dans la joie ou avoir de la bonté, mais il faudra aussi que je sois en paix pour arriver à vivre ce fruit de l'esprit. Et il dit dans 2 Corinthiens aussi en paix, en se consolant, c'est-à-dire qu'il y a des fois des tristesses, hein, et ça enlève un peu la paix, mais on va se consoler les uns les autres, en se perfectionnant. Si chacun a envie de grandir et d'avoir le même sentiment en Christ, alors la paix va régner. Mais souvent, on a chacun nos petits sentiments à nous, personnels, parce qu'on a des griefs vis-à-vis de l'autre, ou je ne sais pas. Mais si on travaille ensemble à se perfectionner, à se dire, moi j'ai aussi besoin de grandir, c'est pas mon frère qui a besoin de grandir, c'est moi qui ai d'abord besoin de grandir. C'est moi qui veux commencer à grandir, l'autre il se débrouille, c'est pas mon propos, d'accord? Et si je veux agir comme cela, forcément, ça va conduire à la paix. Et puis pratiquer la parole, hein, Philippiens 4, 9. Quelqu'un a un nom?
Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous.
Donc il s'agit aussi de connaître sa parole, hein, puisqu'il parle là de Paul, mais il parle de la parole évidemment derrière, et de la mettre en pratique, Hein, et alors, à ce moment-là, parce que je la mets en pratique, ben forcément, je vais avoir la paix, puisque je vais m'efforcer, je vais pardonner, je vais aimer, etc. Et ça, c'est la Bible, ce qu'elle nous demande de faire. Et à ce moment-là, on va connaître et conserver la paix les uns avec les autres. Vivre dans la sanctification, on l'a déjà dit, laisser le Saint-Esprit nous travailler en recherchant la paix, en recherchant la sanctification, nous dit Hébreux. Hein. Et il y a un lien entre les deux. Il y a, quand on se laisse vraiment travailler par le Seigneur et par le Saint-Esprit, il ne va que produire la paix. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le péché. Le péché, ça enlève ma paix. Et s'il enlève cela de ma vie, forcément, la paix va venir. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment vous viviez autrefois votre vie avant Jésus-Christ. Vous étiez en paix? Pas moi, en tout cas. J'étais en pleine dépression et ce n'était pas vraiment la paix. Hein. Mais depuis, quand on fait le contraste, waouh, c'est fou. Hein. Des fois, Dieu devrait nous permettre de revenir, allez, 10 minutes dans l'état où on était avant pour se rendre compte de ce qui s'est passé depuis. Hein, ça vous dirait? Non, moi ça ne me dirait pas, mais bon, parce que c'est assez terrible. Mais c'est juste pour nous rappeler que, parce qu'à la force, on a l'habitude, hein, oh, on est en paix, on est tranquille, hein, mais se souvenir de ce que le Seigneur a fait dans notre vie, c'est quand même quelque chose de formidable. Et là, on serait peut-être plus reconnaissant aussi, on dirait plus souvent merci au Seigneur. Mais le Seigneur doit transformer notre cœur, parce que sans la sainteté, la paix est impossible. Dieu est un Dieu de paix, c'est un de ses attributs, mais en même temps, il est saint. Et les deux travaillent ensemble, forcément. Et si moi, je veux vivre la sainteté, forcément, je vais chasser le péché, et forcément, ça va produire la paix en moi et vis-à-vis des autres. Dans 2 Timothée 2, 22, quelqu'un là? C'est pour les jeunes, hein, il n'y a plus de jeunes ici, mais bon. Ah si, il y en a un encore. C'est toi en plus qui l'as?
Moi, ouais.
C'est en plus toi, c'est bien, j'ai pas fait exprès. Vas-y. Alors
ouais. Fuis les passions de la jeunesse qui recherchent la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
Il ne dit pas de ne pas vivre sa jeunesse, hein, mais de fuir tout ce qui ben, finalement ne n'apporte pas la paix. Il y en a tellement de choses. Mais il demande à ces jeunes, et nous aussi on est jeunes encore aujourd'hui, hein, d'avoir ce cœur pur et de chercher la paix, de travailler à rechercher cette paix tous les jours. Et cette paix, elle est liée à la justice, elle est liée à notre foi, elle est liée à finalement tous les attributs de Dieu, on pourrait dire aussi quelque part. Une paix aussi avec des limites, par contre. Romains 12, verset 18, si quelqu'un veut le lire.
C'est impossible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Donc on peut avoir le désir d'être en paix avec tout le monde, je pense qu'on est comme cela, mais s'il est possible, parce que des fois vous voulez vivre en paix avec certains, et vont dire... Ça va pas, moi je te fais la guerre. Le Seigneur veut qu'on cherche cette paix, mais dans certains cas, on ne pourra pas la donner parce que quelqu'un la refuse tout simplement. Hein. Alors s'ils veulent bien la paix, ils la prendront. S'ils ne la veulent pas, dans ce cas-là, on ne va pas se confronter à eux non plus tous les jours, ça ne sert à rien, on n'est pas maso. Hein. S'ils ne veulent pas la paix, c'est leur problème. Mais c'est une paix, autant que cela dépend de nous, malgré tous nos efforts, malgré tout l'amour qu'on a pu donner à une personne, si elle ne le veut pas, tant pis pour elle. C'est son choix, tout simplement. Et la Bible nous dit encore que le chrétien est messager de la paix. Romains 10, verset 15.
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.
Nous sommes des messagers de la paix. Ah oui. Ah ouais. Un peu des ambassadeurs aussi de cette paix. Hein. Nous sommes appelés à annoncer la paix. Annoncer la paix, c'est aussi dénoncer le péché, des fois. Hein, on n'ose pas, des fois, dire certaines choses. Et je suis content, pendant les 15 jours, là, on a pu parler un peu avec la famille. Et je n'apporte pas que la paix, je dis aussi ce qui est vrai. Je parle du péché. Hein, et il faut quand même qu'on le réalise un moment. Et annoncer la paix, c'est d'abord dénoncer le péché aussi. Alors, avec tout l'amour qu'on a. Hein, mais pas faire croire aux gens que « Ah non, vous êtes bien, vous volez, c'est bien, vous tuez, c'est bien. » Non, non, il faut aussi dénoncer le péché. Et parce qu'on va dénoncer le péché, on va pouvoir annoncer la réconciliation. Parce que personne n'a besoin d'être réconcilié s'il n'a pas compris qu'il est pécheur d'abord. Mais c'est ça aussi, quelque part, apporter la paix. Parce que si vous ne dites pas les choses comme elles sont, personne n'arrivera à la paix que Dieu veut donner. Il faut d'abord se repentir. C'est montrer aussi que la guerre, le mal et tout ce qui est dans ce monde ne vient pas de Dieu et l'affirmer. Ah ça, je ne supporte pas quand on me dit c'est à cause de Dieu tout ça. Moi, je mets les choses bien claires. Je suis là, messager de la paix, ambassadeur de Christ, donc je défends mon pays. Et je dis les choses comme elles sont. Et c'est évidemment un mensonge que d'accuser Dieu du péché des hommes. Dieu n'a jamais, jamais voulu ça dans ce monde. Et c'est aussi montrer à ces gens que la paix commence par nous. Alors si vous voulez annoncer la paix aux autres, soyez en paix d'abord vous. Parce que vous n'avez pas demandé aux autres ce que vous ne faites pas vous-même. Et s'ils voient en vous de la paix, mais comment tu arrives à être calme dans ces situations-là? Alors, on n'est pas toujours parfaitement calme, mais il y a quelque chose que nous n'avons pas. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Et ça commence par moi, évidemment. Et puis l'impact, je pense qu'on... Quand on est des hommes de paix, des messagers de paix, il y aura forcément un impact sur les gens. Déjà, Jésus, quand il est venu en paix. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2000 ans, il y a une église qui a grandi, etc. Il y a un impact. Tout le monde connaît Jésus. On connaît. On sait que Jésus a existé, on parle de Jésus-Christ, on est d'accord ou pas d'accord, mais il a eu un impact dans ce monde. Et ce n'est pas un impact de dictateur ou de je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un de paix, en paix qui était là. Et comme nous, comme lui, celui qui procure la paix est appelé fils de Dieu. Si je suis fils de Dieu, j'agis comme Dieu. Et comme on l'a vu au début, Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu d'ordre, donc je vais agir comme papa, comme Dieu, comme mon père. Je veux l'imiter. Et le désir et la pratique de la paix, forcément, a un impact. Et le Seigneur voudrait justement qu'on voit dans l'Église, en moi, la paix. Cette paix que le monde ne connaît pas, mais qu'il nous a donnée à nous, comme le monde ne donne pas. Mais il voudrait que ça ait un impact sur les gens autour de nous. Alors, on l'avait lu tout à l'heure dans Actes, on veut la paix, mais parfois pour vivre en paix, ça passe aussi par la persécution. Hélas, Jésus était un homme de paix, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils l'ont crucifié. Paul, Pierre, d'autres ont voulu aussi apporter la paix, mais la paix, ça ne plaît pas aux pécheurs, la paix. Il n'y a pas d'argent derrière dans la paix, il n'y a rien dans la paix. Donc forcément, si je veux vivre en paix, je risque aussi de passer par la persécution. Jésus disait, il n'est pas venu apporter la paix, on comprend bien, mais l'épée. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas venu apporter la paix dans le sens, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont haïr cette paix-là. Parce que la paix, c'est juste, parce que c'est le bien de tout le monde, mais tout le monde n'aime pas ça. Et forcément, l'épée va venir derrière. Le monde est en fait la paix. Il n'aime pas la paix. À part une illusion de la paix, mais je ne pense pas qu'il aime vraiment la paix. Comme Jésus, comme les autres, on aura des tribulations un jour. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Jésus-Christ et parce qu'ils ne veulent absolument pas la paix. C'est comme ça. Le diable, il ne veut pas la paix. Mais il y a des gens qui sont comme lui et qui ne désirent pas cette paix. Et il faudra, nous, en tant que chrétiens, rester messagers de cette paix, accepter ce qui peut arriver, des tribulations ou autres. Ça commence des fois dans notre travail. Quand vous voulez être en paix, les collègues ne sont pas toujours d'accord. Quand vous voulez être juste et donc en paix, ils ne sont pas forcément d'accord avec vous. Mais là, bon, on ne va pas pleurer. Pas la tribulation, c'est pas les lions, etc. Donc la paix, ça commence par ma transformation. Ma transformation. Moi. Pour une fois qu'on peut être avec notre ego, moi, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens positif. Je vois mon ego, je me rends compte qu'il faut que je change, que je dois être transformé par le Saint-Esprit et par la parole. Et quand ce travail se met en place, ça va produire forcément un témoignage. Si vous voyez un homme de paix arriver, vous voyez la différence avec un homme de guerre. On s'entend bien. Et ça va forcément produire un témoignage et un impact sur les gens qu'il va fréquenter. Pour terminer, le monde cherche la paix, on l'a dit, mais il l'a construit avec des fondements, avec des pièces un peu fragiles. Il essaie de construire la paix avec le péché, avec la chair, avec l'ego. On peut essayer, mais ça ne va pas aller très loin. Et nous-mêmes, peut-être, des fois, en tant que chrétiens, on essaie de bâtir de la même manière notre paix intérieure. Avec le péché et la chair, ou alors parce qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, ou parce qu'on l'aime. La paix ne se construit que sur Christ et sur son pardon. Si quelqu'un un jour vous demande comment on peut être en paix, vous ne lui dites pas, tu fais ça, tu dis, tu es pécheur, tu dois te repentir, et tu dois accepter la grâce de Jésus-Christ. Et quand tu accepteras Jésus-Christ, tu connaîtras seulement à ce moment-là la paix, parce que le cœur va être débarrassé de tout le péché, il sera pardonné, et parce que Dieu va changer justement son cœur. Naturellement, nous, on aime ce qui nous fait mal. On est bizarre, mais on aime ce qui nous fait mal. Mais le Seigneur a changé ça dans notre vie. Ça, c'est pour le monde. Mais à nous, chrétiens, nous avons pour fardeau la transmission de cette paix aux pécheurs. C'est pas toujours simple, de transmettre cette paix, de laisser leur faire comprendre qu'avec Jésus-Christ, la vie change réellement. Les belles choses peuvent arriver. Les gens sont sourds, ne comprennent pas, c'est bien dommage. En même temps, on peut se réjouir, puisque un jour, Christ, on l'a dit, va imposer cette paix sur la terre. On voit les gouvernements, on voit les gens autour de nous, des fois ça nous fatigue, ça, hein, ça, on en a marre, on aimerait que ça finisse. On doit se réjouir parce qu'un jour ça finira réellement. Et quand ça arrivera, eh ben, on sera parfaitement heureux parce que Jésus va imposer son royaume. Et ensuite, on part pour l'éternité, une éternité en paix. Vous pouvez imaginer ça? J'ai une journée en paix, on y arrive à peu près. Bon, l'éternité, sans plus aucun souci, sans plus aucun péché, sans plus... En paix, tranquille, flottant, quelque part j'ai envie de dire. Ça doit nous réjouir ça, non? Ouais, un peu. En attendant, nous dit Colossiens 3,15, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, c'est-à-dire l'Église, règne dans vos cœurs. C'est pas soit dans votre cœur, règne dans votre cœur. Hein. Il y a vraiment là une dimension. Règne dans votre cœur et elle termine en disant « Et soyez reconnaissants ». C'est bien d'avoir la paix, mais c'est bien de dire de temps en temps merci au Seigneur pour cette paix qu'il a mis dans votre cœur. On va prier. Seigneur, c'est vrai qu'à regarder ce monde, nous sommes vraiment tristes de cette paix artificielle que le monde essaie de bâtir loin de toi, loin de ta parole, Seigneur, de tes commandements. Mais merci parce que tu nous as rencontrés un jour dans notre vie et tu nous as proposé de nous repentir. Tu nous as proposé aussi d'accepter un Sauveur qui a absolument transformé toute notre vie. Et depuis, nous pouvons vivre en paix. Nous devons être infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cette réconciliation, pour cette paix avec toi. Et merci aussi parce que ce n'est pas que à la repentance, mais c'est pour toute la vie que nous pouvons vivre de cette manière-là. Pardon, Seigneur, si parfois, nous oublions ou nous ne profitons pas de cette paix qui t'a coûté si cher. Apprends-nous à nous laisser dompter, entre guillemets, par le Saint-Esprit, à nous laisser transformer, à vivre cette sainteté qui finalement apportera la paix dans notre cœur. Et parce que nous avons la paix, nous aurons un témoignage, un impact aussi sur l'extérieur. Et peut-être que des gens seront touchés par cette paix, verront Jésus-Christ derrière et l'accepteront dans leur vie. Apprends-nous, Seigneur, à vivre cette paix et apprends-nous aussi à la partager pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen. Amen.